Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en RDC et même en dehors de nos frontières sur www.radiookapi.net. Nous allons échanger tout à l'heure autour de la controverse autour de l'arrivée à Kinshasa des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. Voilà, beaucoup de questions sans réponse. Qui sont ces migrants? Où vont-ils loger? Comment vont-ils vivre? Ils sont à RDC pour combien de temps, etc. Henri Christian Lungenja, coordonnateur d'une structure pour le droit d'accès, qui milite pour le droit d'accès à l'information, sera notre invité dans quelques instants. La question vous intéresse, composez les 085 42 11 547, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Sylvain Baouguere, à la mise en onde de Benjamin Moudoumbi, coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté s'occupe des plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Écoutez la radio Okapi, une voix pour tous. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien, Okapi Service. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons échanger à présent autour de cette controverse à propos de l'arrivée à Kinshasa des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. Eh bien, l'arrivée à Kin le 17 avril dernier du premier groupe des migrants continue à susciter des interrogations dans l'opinion publique. D'autres migrants vont arriver à Kinshasa dans les prochains jours. Et le premier lot de 15 personnes est constitué des citoyens en provenance du Pérou, de la Colombie et de l'Équateur. C'est là à la suite d'un accord signé par le gouvernement congolais avec l'administration américaine. Pour certains, ces individus ont été appréhendés aux États-Unis sous les statuts des demandeurs d'asile, mais ils se retrouvent en RDC. Pourquoi? Voilà, il y a encore des questions qui demeurent. Alors, le manque de clarté autour de la situation de ces migrants expulsés pourrait constituer une atteinte à leurs droits fondamentaux d'après plusieurs juristes. Entre préoccupations sécuritaires et critiques sur la capacité d'accueil du pays, les avis divergent sur l'opportunité de cet accord. Qui sont ces migrants? Où vont-ils loger? Comment vont-ils vivre? Ils sont là sous quel statut? Et pour combien de temps, etc. Henri-Christian Longenja, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24, qui est une structure qui milite pour l'accès, pour le droit d'accès à l'information. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette controverse concernant l'arrivée des migrants expulsés des USA à Kinshasa? Le premier lot est arrivé dernièrement, il y a d'autres qui vont arriver. Alors, comment le collectif 24 réagit par rapport à cela?
Oui, merci. Je pense que le collectif 24 a déjà même formulé une demande en information auprès du porte-parole du gouvernement. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Et pourquoi nous avons formulé une demande en information? Parce que c'est du droit de tous les citoyens d'être informés et surtout que ce sont des questions qui touchent avec des effets collatéraux à la vie de tout un chacun. Pour non seulement des Congolais, mais de ces immigrants-là. Alors, nos préoccupations sont dites, d'abord, lorsque les gens vont immigrer, la première raison, souvent, c'est des raisons économiques. Des raisons sécuritaires et politiques viennent souvent au second plan. Mais dans les statistiques des immigrants, c'est plus pour des raisons économiques. Parce qu'ils sont en train de fuir la misère, ainsi de suite, et ils se disent qu'il faut trouver mieux ailleurs, et mieux ailleurs, c'est les États-Unis, Canada, l'Europe, donc l'Occident. Et maintenant, lorsque les gens ont choisi un pays et qu'ils sont arrivés, et là, ils se sentent sous l'abri, et que vous les expulsez malgré leur volonté, c'est déjà une atteinte à leurs droits en tant que personne et que ça ne respecte pas les normes de l'immigration ou de la protection des réfugiés. Ça, c'est la première observation que nous avons faite. Alors, la deuxième, c'est que nous sommes posés des questions. Lorsque aujourd'hui, je vais immigrer dans un pays et que ce pays me refuse, c'est de leur droit de me retourner dans mon pays d'origine. Sauf s'il y a eu des questions, par exemple, les sécurités qui sont en train de fuir, alors à ce moment-là, le HL peut me trouver un autre pays d'asile. Mais lorsqu'on ne me retourne pas là, on m'envoie dans un pays où je n'ai pas choisi, ce n'est pas normal. Alors nous nous posons des questions, d'abord avant qu'ils arrivent, leur nationalité n'était pas connue. Alors pourquoi les États-Unis, qui sont économiquement forts, même du point de vue sécuritaire, tout est réuni. Alors, quelles sont des raisons que les Américains les ont refusées? Ils constituent quoi comme danger économique, social ou sécuritaire pour dans la terre des États-Unis? Alors, si cela constitue un danger Est-ce que ce danger-là n'est pas est affaibli chez nous? Est-ce que ce danger-là ne peut pas être multiplié autant de fois par rapport à chez nous quand on sait que les Américains sont économiquement, socialement, sécuritairement forts plus que nous? Alors pourquoi les ramener en RDC? Alors, et ils sont là pour combien de temps? Vous voyez que même la première ministre, même les porte-parole du gouvernement, n'arrivent pas à fixer exactement ils vont faire au Congo combien de temps et après le Congo, ils vont aller où? Parce que personne ne peut être un apatride. Toute personne a droit de trouver un asile et de s'installer dans le pays de son choix, soit moins qu'il constitue un danger pour ces pays-là. Alors, donc, cette manière de violer les droits internationaux et surtout les droits d'accès à l'information des Congolais, nous avons trouvé que ce n'est pas du tout normal. Le gouvernement ne communique pas assez. Et que toutes ces questions-là, normalement, les accords ratifiés par le Parlement, c'était des accords par rapport à la situation de négociation avec le Rwanda, avec l'Est du pays. Mais par rapport aux immigrés, à ma connaissance, je ne sais pas si le Parlement a encore ratifié, mais on ne pouvait pas passer directement en action sans que le Parlement puisse discuter cette question et qu'on en fasse un débat public, que la population accepte. Parce que si ces gens-là, admettons qu'ils sont des gangs qui sont, vous savez, la psychologie des refoulés, quelqu'un vivait mieux, pensait vivre mieux aux États-Unis, vous l'amenez au Congo, il va considérer comme une prison à ciel ouvert, et il peut faire du n'importe quoi. Et ce sont des pays, des chanfreins, des pays de drogue. Alors, quel est l'état psychologique de ces gens-là? Est-ce que ce ne sont pas des drogués qui, demain, peuvent encore ajouter encore une dose d'insécurité dans les coins où on les a placés? Tout ça, ce sont des problèmes que la population, nous sommes tenus savoir, et le gouvernement est obligé de nous informer assez. Malheureusement, le gouvernement informe peu quant à ça.
Bien, mais le ministère de la Communication et Médias avait mis un communiqué le 17 avril dernier disant que ces dispositifs revêtent un caractère strictement transitoire, temporaire et limité dans les temps. Ces gens ne vont pas rester ici en RDC. Ils sont là pour un court séjour et ils sont couverts par des titres des courts séjours et puis ils vont aller ailleurs.
Vous savez, je dis, c'est à cause de ces communiqués-là que nous, les collectifs 24, nous avons adressé une demande en information. D'abord, dans ce communiqué, il n'avait même pas cité les pays, il avait dit les pays tiers, sans les citer. Court durée, ça, c'est quand? Parce qu'en termes d'immigration, lorsqu'on parle de court durée, ça ne peut pas dépasser 6 mois. Alors, est-ce que ces gens-là vont dépasser 6 mois? S'ils vont dépasser 6 mois, ça veut dire que ce n'est plus court durée. Et en plus de ça, après, ici, ils vont aller où? On va les amener dans quel pays? Est-ce qu'ils vont rentrer en Équateur, au Pérou, tout ça? Ou soit, on va les amener dans quel pays? Et aussi, ce sont des hommes qui ont droit à une stabilité. Alors, lorsqu'on les ballotte comme ça, pour quelle raison? Est-ce que ce sont des gens qui sont condamnés ou quoi? Alors, et pourquoi le choix de la RDC par rapport à d'autres pays? Surtout que tous ces pays-là, les trois pays sont les pays de l'Amérique. Presque la même coutume ou les mêmes pratiques avec les États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi pas les ramener dans un autre pays de l'Amérique latine que de les amener ici en Afrique et de s'y croire au Congo où on a tant de problèmes. Donc, lorsque le ministre de la Communication a communiqué, il dit, bon, il a communiqué pour ne pas donner l'information. Parce que pour nous, l'information, dans son communiqué, devait dire, ils seront autant, c'est telle nationalité, au lieu de parler de tiers pays. Et lorsqu'ils viennent, c'est pour telle durée, de telle date à telle date, ils doivent rentrer. Ils seront logés à tel endroit. Bon, parfois, là, ils seront logés, ils peuvent dire que pour leur sécurité, ils ne peuvent pas dire ça. On peut concéder ça et ils vont rentrer à partir de telle date et qu'on les a donné les visas de courte durée. Quand on sait que chez nous, c'est un pays où même les sans-papiers vivent, les gens, l'immigration est défaillante. Les gens qui contrôlent tout ce monde-là avec les papiers, ainsi de suite. C'est difficile. Alors, lorsqu'on vit dans ces pays où on peut entrer quand on veut, sortir lorsqu'on veut, par rapport aux États-Unis, vous pouvez entrer dans n'importe quel coin du pays, on va vous repérer. Mais chez nous, on peut entrer dans tel coin du pays sans pour autant être intercepté par l'immigration. Alors, donc, vous voyez, tout ça, nous sommes un pays fragile et que le gouvernement ne pouvait pas se limiter à une simple communication lorsqu'on sait que même ici à Kinshasa, l'insécurité bat record avec les banditismes urbains de Kuluna, tout ça, et lorsqu'on les amène en Célé. Mais en Célé, c'est là où à chaque jour, on assiste à des cas de cruauté, des assassinats, ainsi de suite. Alors, et en amenant ces gens-là, on ne connaît pas leur nature, si c'était des condamnés de guerre, si c'était ils étaient qui, est-ce que des gangs, ainsi de suite. Alors, vous voyez, tout ça, ça rend psychologiquement les Congolais dans une situation d'insécurité encore qui renforce son inquiétude. Et ce n'est pas bon. Nous pensions que le gouvernement devrait vraiment communiquer, surtout que lorsqu'ils disent un deuxième lot qui doit arriver, ce deuxième lot deviendrait de quel pays? Alors tout ça, malheureusement, le Parlement, nous avons l'impression que ce n'est qu'une caisse de résonance du gouvernement au lieu de faire des débats roulés autour de la question et demander aussi l'avis de la population.
Bien, Ernest Lukumwena Kalala nous a écrit depuis le Mali. Il dit ceci, si les États-Unis affirment couvrir l'ensemble des coûts, pourquoi l'OIM a-t-elle été sollicitée pour une assistance humanitaire? Cela révèle-t-il un besoin supplémentaire ou une ambiguïté dans la répartition des responsabilités? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Ernest depuis le Mali?
Bon, je pense que nous partageons les mêmes avis, d'autant plus que lorsque nous avons posé même des questions liées à ces choses, le porte-parole du gouvernement dit que la RDC ne va rien dépenser, on ne va pas saigner les trésors publics, tout sera supporté par les États-Unis. Mais quand on voit que les États-Unis demandent aussi l'intervention de l'OIM, c'est pour dire que les États-Unis ne vont pas tout couvrir. Et lorsqu'ils demandent ainsi, pour 15 seulement qui sont venus, alors qu'il y a encore un autre lot qui doit venir, donc ça nous inquiète et ça montre que les États-Unis ne vont pas tout couvrir. Et quand on sait que nous-mêmes à l'intérieur, il y a de sérieux problèmes, nous avons des réfugiés internes, donc les déplacés de guerre internes, qui ne sont pas totalement pris en charge. Vous prenez ici à Kinshasa, tous les déplacés de Pakadjouma où il y a eu des morts, ainsi de suite, et qu'on continue à déloger les gens par-ci, par-là, ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Alors pourquoi prendre encore d'autres charges supplémentaires que ces gens-là pouvaient bel et bien rentrer dans leur pays, qui ne constituent pas un danger dans leur pays? Alors pourquoi les ramener en RDC? Donc je partage pratiquement.
Allô? Voilà, il y a des soucis avec la ligne d'Henri Christian. Allô?
Oui, allô, je vous capte 100%.
D'accord. Mmh. Alors, nous parlons de l'arrivée à Kinshasa des migrants expulsés des États-Unis. Voilà, autant des questions que la population se pose sur par rapport au séjour de ces personnes. Des questions et préoccupations, eh bien, appelez-nous au 085-42-11-547. 085-42-11-547. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Alors, le collectif 24 a écrit au ministère de communication et médias et jusque-là, aucune suite ne vous a été réservée?
Jusque-là, on n'a pas encore reçu la suite pour qu'ils nous disent clairement, nous donnent des réponses par rapport à nos préoccupations. Dont les majeurs, c'est savoir. À l'époque, comme les pays n'étaient pas connus, nous voulions savoir qui sont ces pays-là, au lieu de nous parler des pays tiers, et quelles sont des raisons que ces gens-là avaient immigré aux États-Unis. C'était pourquoi? Pourquoi ils demandaient l'asile aux États-Unis? Est-ce que c'était l'asile économique, sécuritaire ou politique? Qui sont ces gens-là? Et pourquoi les États-Unis les expulsent? Ils constituent quoi comme danger aux États-Unis et qui ne serait pas un danger au Congo? Et quelles sont les dispositions qui sont prises? Et s'ils sont là temporellement, c'est pour combien de temps? Parce que si ça dépasse 6 mois, ce n'est plus temporel selon les normes de l'immigration. Alors, et en quittant ici, ils vont aller où et qui les prennent en charge? Alors, tous, quelles sont les mesures de sécurité d'encadrement pour que demain, ils ne s'associent pas avec des brigands parce que ce sont des drogués? Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique de ces gens-là et qui les prennent en charge psychologiquement? Si les Américains, entre guillemets, peuvent les prendre en charge financièrement, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils demandent l'intervention de l'OIM, mais psychologiquement, qui les prennent en charge? Est-ce que nos experts sont associés pour cette prise en charge psychologique pour que demain, qu'il n'y ait pas de boom? Nous voyons même nos propres compatriotes, lorsqu'on les expulse de l'Europe, ils deviennent tout autre personne. Et on voit des dégâts, on se souviendra du jeune homme qui avait tué sa maman et qui l'a fini par le manger. Et, mais c'est un expulsé de l'Europe. Donc, lorsqu'on expulse quelqu'un de là où il pensait avoir tout le bonheur de la vie,
ça crée des perturbations psychologiques.
Ça crée des perturbations psychologiques et il faut une prise en charge totale. Est-ce que déjà on a entamé cette prise en charge totale avant même qu'ils arrivent ici psychologiquement? Et ici, est-ce qu'on on est en train de relayer cette prise en charge? Tout ça, ce sont des questions pour que les Congolais ne vivent dans la quiétude, qu'il n'y ait pas de peur lorsqu'on les voit venir, que ça ne soit pas l'objet de craintes, que ça ne renforce pas encore notre insécurité quand on sait qu'on est déjà fragile quant à ça.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Anaclé Ngandou Bouta nous appelle depuis Kananga. Elvis Londola est à Kinshasa. Et Rufin Bassobantou est à Likasi. On commence avec vous, Anaclé Ngandou Bouta. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes. Et bonjour à l'invité aussi.
Bien,
merci pour la part.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire rapport à cette question des migrants expulsés des USA?
Oui, merci. Merci pour la parole que vous m'accordez. Oui, à ce qui concerne le thématique de ces jours, moi je pense que dans un pays où les institutions de la République se respectent, on ne devait pas discuter sur ce point aujourd'hui. Parce que le pays où les institutions se respectent, on devait directement nous signifier la cause du répartiment de ces immigrants. Mais chose grave, notre gouvernement n'arrive pas à nous dire la vérité. Nous avons vu quoi, la chef du gouvernement, si une chaîne de télévision incapable de nous dire les modalités de les séjours aussi sur la RDC. Mais moi, je pense que nous devons juste honorer les accords parce que ces accords-là engagent les deux nations. La RDC est pays membre des Nations Unies et les restes-là, on laisse mon gouvernement de s'assumer. Merci beaucoup.
Bien, merci Anaclé. Elvis Londola de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à notre invité.
Oui. Vous me suivez? Oui, on vous écoute 5 sur 5. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci beaucoup pour l'intervention de notre invité. Cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. Vous savez, depuis que ces gens sont arrivés ici, et malgré l'invité aussi a parlé de l'intervention du ministre de la Communication et de la communication de la première ministre, vous trouvez que ce sont des communications ratées peut-être. Je veux dire ça à tel point que la première ministre n'arrive pas à identifier même les trois pays qu'il a dit dire, mais il n'arrive pas même à les citer. Deuxièmement, je pourrais dire quoi? Il faut noter que l'Amérique est plus grande que la RDC. Et l'Amérique dispose aussi la meilleure sécurité au monde. Je ne sais pas. Et ces gens-là, ce sont des expulsés. Je ne sais pas. Est-ce que quelle expression on peut trouver là? Ce sont des refoulés, quel d'autre terme? Est-ce que ce sont des personnes... C'est-à-dire, on peut dire que ce sont des personnes qui sont rejetées d'une part, qu'on les amène en RDC pour une raison d'argent. Je ne sais pas si peut-être pour la raison de l'argent, mais je me rappelle toujours, il y a, je ne sais pas les noms, peut-être c'est l'insociable de l'église catholique de Lumbashi qui avait dit que ces accords qu'on a signés ont des annexes qu'on n'a pas publiées. Est-ce que ces contrats-là, est-ce que les contrats des migrants qui arrivent ici, est-ce que ces contrats-là, est-ce que nous l'avons vu? Même Patrick Mouyaya, qu'on a vu sur Bossolo, ils n'arrivent pas à répondre, peut-être ils ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Alors, la question que je me pose, où sont les sociétés civiles qui... Pendant ce temps-là, l'État de Kabila, on avait assez de sociétés civiles qui criaient chaque fois qu'il y avait des décisions unilatérales. Aujourd'hui, il n'y a aucune société civile qui se tienne debout pour même réclamer, avant même l'accord qui s'est fait. Imaginez la question qu'on a demandé à la Première ministre. Que gagnerez-vous en faisant cela avec la Nadine? Non, nous aidons l'Amérique. Alors imaginez, on dit, les relations entre pays, c'est les relations des intérêts. Imaginez, on veut aider l'Amérique à quoi? Justement parce qu'on a signé un accord avec qui? Parce qu'il nous a aidé de signer un accord avec le Rwanda. Ça veut dire que même la Première ministre n'a pas encore la vérité sur cet accord. Si le porte-parole du gouvernement, si la Première ministre n'a pas ces vérités-là, qu'elle dit de la population, nous qui sommes à basse classe, où ce sont elles qui doivent nous informer.
Bien, merci beaucoup Elvis Londola. On va donner la parole à Rufin Bansobantu depuis Likasi, dans le Haut-Katanga. Rufin Bansobantu, bonjour.
Bonjour, merci Monsieur Jody Daniel Kachama.
Bien.
Pour moi, concernant l'affaire des migrants, j'aimerais juste poser une petite question et directement à l'invité du jour. Que dans notre pays, de gauche à droite, nous avons le problème de l'insécurité grave. Là où on est en train de tuer, arracher les biens d'autrui par nos frères Kuluna, de gauche à droite, par exemple, à Kinshasa. Presque partout, la même chose est en train de se reproduire. Et maintenant, les gens qui sont venus chez nous, lorsqu'ils vont tomber dans de telles catastrophes de l'insécurité, parfois la tuerie lorsqu'ils seront tués par les Kuluna, est-ce que la communauté internationale ne va pas vraiment s'endommager en disant que nous avons amené les gens et qui était vivant, et maintenant, par après, bon, on les tue comme ça. Il n'y aura pas vraiment à payer de l'argent là-bas. Ah oui, parce que nous sommes au courant très bien que nos frères Toulés sont en train de souffrir, de peiner de telles histoires de l'insécurité sur le plan national. Et puis de deux, et aussi, lorsqu'ils font venir, est-ce que ces gens-là sont bien contrôlés par l'État congolais. Et ce ne sont pas vraiment des bandits et autres qui peuvent mettre la vie de nos frères congolais en danger. C'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup, monsieur Jody Daniel Kachama.
Bien, merci à vous, Rufin Bansobantu. Henri-Christian Longenja.
Merci, je commence par la préoccupation des compatriotes Rufin. Ce sont des questions que nous nous posons. Et je pense que si par mégarde, l'aide des expulsés ou l'aide des immigrants trouvait la mort ici dans des circonstances qui ne sont pas claires, le cas d'assassinat, ainsi de suite, le pays va payer. Ce n'est pas pour rien aussi que les Américains recourent aussi à l'OIM. Parce qu'il y a, en tant qu'Organisation internationale de migration, il y a des normes que notre pays, en tant que membre de l'OIM, doit respecter. Et lorsque vous acceptez de prendre les immigrants, les si je peux les appeler maintenant les apatrides, parce que ils ont quitté leur pays, ils vont aux États-Unis, les États-Unis le refusent, et maintenant c'est le Congo qui les prennent. Donc le Congo doit s'assumer et vraiment veiller sur leur sécurité, parce que si l'un d'eux trouvait la mort, il y a un problème, notre pays doit payer. Et tout ça, ce sont des effets collatéraux de ces accords secrets que nous exigeons toujours que, si même on ne peut pas mettre à la place publique, mais que ça fasse nécessaire un débat national au niveau du Parlement, pour que la représentation populaire puisse quand même en savoir et décider, quand bien même on sait que la majorité ne fait que la volonté du chef. Bon, ils vont accepter comme d'habitude, mais du moins qu'on arrange la forme, que ça fasse l'objet du débat bien avant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, c'est comme si nous étions dans un état de siège où c'est le gouvernement qui prenne le devant et le Parlement vient par la suite ratifier. Or, la ratification, normalement, celle-ci, le Parlement n'est pas là. Mais lorsque le Parlement est en pleine session, pourquoi commencer d'abord par signer des accords et venir maintenant imposer la ratification par le Parlement? Ça devrait être le contraire, malheureusement chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est comme l'autre compatriote qui dit, bon, le gouvernement, enfin, nous devons qu'assumer. Oui, bien sûr, bon, c'est un argument de faiblesse pour nous parce que on nous met dans une situation d'adhésion sans consentement, mais ce qu'il faut dire que dans un État qui se respecte, les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Lorsque les plus hauts sommets, la première ministre n'arrivait même pas à donner les noms de ces pays-là, ça pose problème. Lorsque le porte-parole du gouvernement n'arrive pas à répondre clairement, il parle que non, c'est pour aider, ce n'est pas pour l'intérêt. Qu'est-ce que la RDC tire de là? Oh non, ce n'est pas pour question d'intérêt, alors que les relations internationales...
Allô? Je pense qu'il y a un souci avec le micro avec la ligne de notre invité. On va le rappeler dans quelques instants. Elvis Londo, là, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Bonjour, Elvis Londo, là.
Oui, je suis là, monsieur.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette affaire des migrants expulsés des États-Unis et qui se retrouvent à Kinshasa?
Ouais, je voulais finir ceci. Parce que j'intervenais, mais la connexion était coupée.
Oui.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Après ces deux sorties de la première ministre, là où elle était sortie, qu'est-ce qu'on a vu? Maintenant, à la télévision, tout partout, tout le monde les défendait. À tel point que quelqu'un a parlé même que l'Amérique latine n'est qu'autre que trois pays. Parce que la première ministre a parlé de trois pays, et il dit l'Amérique latine n'est que trois pays. Alors, oubliez que la Chili, le Brésil, sont des pays de l'Amérique latine. Alors que nous savons ici peut-être que, ici à Pacajuma, on venait d'expulser nos frères et sœurs qui ont envoyé en Syrie. Maintenant, on retrouve qu'on a de prendre des gens qui sont refoulés, expulsés, comme les mots. Je ne sais pas comment les gens expliquent ces mots-là. Moi, je voulais que l'invité nous explique les mots. Les gens qui sont expulsés, quels sont les restes que nous avons toutes les raisons qu'ils ont été expulsés? D'autres personnes disent que ce sont des experts, ce sont des opérateurs économiques qui sont arrivés, mais l'expression qui est utilisée là-bas, c'est autre. Alors, pour chuter, je voulais demander à notre invité à quel point nous voyons pour que nous puissions avoir des véracités sur certaines choses. Parce que il est de la société civile. Lui également, il ignore les aboutissants. Ça y est, c'est ce qui s'est fait. Les bancs peuples, nous qui sommes à Kinshasa ici, on est impossible d'arriver. Mais ceux qui sont à l'intérieur vont voir comment. Et n'oubliez pas que la ministre des Affaires étrangères en Belgique est arrivée ici où elle a parlé des demandes d'asile. On n'en veut plus. On nous prend pour qui? Hein? Alors maintenant, la Belgique refuse maintenant, même que nous puissions, les gens commencent à demander des demandes d'asile à la Belgique, maintenant nous recevons les réfugiés. Quel est le message qu'ils transmettent? Voilà ce que je voulais comme participer à cette émission. Vraiment, c'est cette question, jusqu'à présent, pour moi, je n'ai pas encore dissipé. Je n'ai pas encore compris exactement la raison valable. Est-ce que c'est seulement on est tenu à respecter tout ce qui est l'Amérique qui va nous dire parce qu'on a un engagement avec eux. Oubliez qu'on nous sommes un État souverain.
Bien, merci beaucoup Elvis Londola. Il y a beaucoup de controverses. Les gens se posent mille et une questions par rapport à cette affaire des migrants expulsés des USA et qui sont le premier lot est arrivé à Kinshasa. Le premier lot est constitué de 15 personnes en provenance de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou. Il y a encore d'autres qui sont en route, qui vont certainement arriver voilà dans les jours qui viennent ici à Kinshasa. Mais autant de questions voilà qui suscitent cette opération. Henri Christian Ongenja, vous avez suivi les différentes réactions. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus?
Bon, je pense bien que bon, quand bien même certainement la liaison est coupée, mais je suis en train de dire que les préoccupations des uns et des autres sont fondées, mais il est le devoir du gouvernement de bien informer et de bien informer la population. Ils connaissent déjà toutes ces préoccupations. Et même lorsqu'il y a un compatriote qui disait que la société civile ne fait rien, mais la société civile, déjà, un groupe a déjà fait une déclaration quant à ça pour contester cela. Et nous, au niveau du collectif 24, parce que nous prenons le droit d'accès à l'information, nous devons respecter la procédure du droit d'accès à l'information. Nous avons formulé officiellement une demande en information et nous attendons la suite pour se prononcer quant à ça. Mais j'estime que le Congo n'est pas une poubelle. On a l'impression que le Congo est devenu une poubelle. Tous les déchets que de l'Europe qu'on jetait pour broyer deviennent ici comme des bilocos partout parce que c'est devenu une poubelle. Et maintenant, on commence à nous jeter même les immigrants qui ne sont pas acceptés aller dans la poubelle du Congo. Le Congo n'est pas une poubelle. Le Congo, c'est un État souverain.
Un État de droit. Henri Christian, oui. Mais vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait le Rwanda et l'Angleterre avaient signé aussi des accords de ces gens-là pour recevoir.
Oui, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? Le Rwanda et l'Angleterre avaient signé, mais ça n'a pas abouti. Parce que, selon certaines informations, le Parlement avait refusé. Mais il pouvait y avoir d'autres raisons. Pour nous aussi, c'était une bonne chose parce que on s'inquiétait, on se disait, mais ces immigrants britanniques qui viendront au Rwanda sont de quelle nationalité? Tant que nos frontières sont poreuses, ils vont entrer rapidement chez nous au Congo. Le Rwanda n'a pas d'espace. Il va les déverser chez nous au Congo et constituer encore pour nous une cause d'insécurité. Et là, nous avions salué le bravo diplomatique de notre gouvernement qui s'était levé quant à ça par rapport au gouvernement britannique pour dire que non, le Congo est contre cette pratique parce que ces gens-là viendront pas au Rwanda, mais ils finiront par le point de chute chez nous au Congo. Et le gouvernement était debout quant à ça. Et nous tous, société civile, population, étaient d'accord par rapport à la position du gouvernement. Mais maintenant, que ceux qui ont refusé hier, on les amène encore dans les mêmes conditions, sans pour autant garantir la population par rapport à toutes ces préoccupations, selon ça pose un problème.
Bien, alors est-ce que vous avez demandé au gouvernement d'avoir accès au contrat qui a été signé entre la RDC et les États-Unis? Est-ce que vous pensez que ce contrat pourra être mis à la disposition du public?
Bon, vous savez, en matière du droit d'accès à l'information, les contrats signés entre les États, une fois que c'est frappé par le sceau de confidentialité entre les États, ça ne peut pas être rendu public. Ça, ce sont les normes du droit d'accès à l'information. Tout accord ou contrat signé entre les États et qui est frappé par le sceau de confidentialité ne peut pas être rendu public. Mais la représentation populaire, même selon les normes du droit d'accès à l'information, le Parlement est tenu de connaître ça. C'est ça notre problème. Même si on ne peut pas mettre dans les réseaux sociaux, mais le Parlement, qui est la représentation du peuple, est censé tout connaître. Il n'y a pas de secret pour les parlementaires. Alors, c'est comme ça qu'il requiert des huis clos, ainsi de suite, pour discuter quant à ça. Alors, je pense que même s'ils sont 500, ils ne manqueraient même pas 50 et qu'ils vont dire non, ça, ce n'est pas bon, ainsi de suite, et éclairer les autres. Mais la manière dont ça s'est fait de manière secrète et sans donner de grandes lignes, ce n'est pas bon. Et même lorsque c'est frappé par les sceaux de confidentialité, ce n'est pas toutes les phrases ou paragraphes qui doivent être restées secrètes. L'économie doit être rendue publique, surtout des questions fondamentales telles que la nationalité, les causes de refus aux États-Unis, la durée chez nous, après y voir où, tout ça, qui les prennent en charge. Ce sont des questions qui ne peuvent pas être secrètes parce que même la question des prises en charge, ça va saigner les trésors publics et c'est l'argent du contribuable congolais qui est censé savoir qu'est-ce qu'on fait avec son argent. Alors, donc, ça, telle que soit la confidentialité, il y a des choses qu'on peut extraire et faire une bonne communication et éviter des spéculations. Mais lorsque le gouvernement ne communique pas assez avec des réponses claires et convaincantes, et ça alimente les spéculations et c'est ce qui n'est pas bon.
Bien, Henri Christian, on a appris qu'il n'y a pas que la RDC qui a signé un tel accord. Il y a beaucoup d'autres pays africains, le Cameroun, Ghana, l'Ouganda et d'autres pays qui ont, depuis l'été 2025, qui avaient signé également des accords similaires.
Oui, ben vous savez, tous ces pays-là, Cameroun, Ghana, Ouganda, nous n'avons pas les mêmes conditions. Vous prenez par exemple Ouganda, mais les Ougandais, c'est parmi les gens aussi qui nous attaquent et qui sont aussi du point de vue sécuritaire aussi un peu stables par rapport à nous. Ghana, c'est la même chose. Donc, les pays, nous ne traversons pas, nous n'avons pas les mêmes conditions. Et puis, les États-Unis, c'est si vaste. Pourquoi les Américains cherchent à déverser les gens que eux refusent en Afrique? Est-ce qu'ils considèrent l'Afrique comme un autre État américain ou quoi? C'est aussi une violation du droit des immigrants. Parce que lorsque je choisis votre pays et que vous me refusez dans votre pays, retournez-moi chez moi et si ma vie peut être en danger en rentrant chez moi, l'OIM devrait chercher un État. Donc, en fait, ça ne devrait pas être un accord États-Unis et les pays africains. Ça devrait être un accord avec l'OIM et l'HCR qui devrait trouver des pays d'asile et que là, ça respecte le système des Nations Unies. Mais lorsque ça se fait entre État et État, l'HCR parfois n'est pas impliqué, l'OIM appelle, on les invite à s'impliquer. Donc, vous voyez, ça pose problème.
Bien, on va accueillir Christian et Kangambole depuis Bounia, Brunel Ndombe de Bandundouville et Blaise Saïdi à Kisangani. Christian et Kangambole, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à notre invité et bonjour aussi à tous les patriotes congolais dans notre territoire congolais.
Bien,
bon, je félicite aussi le gouvernement de la République. Oui, je félicite aussi le gouvernement de la République. Les gouvernements ne sont pas des ingrats pour accueillir ces gens-là dans notre pays. Les Américains, ce sont des gens qui ont beaucoup d'espérance dans leur pays. Même leur gouvernement américain, ils ont refoulé dans leur pays pour venir ici en Afrique. Ce n'est pas aussi une chose que nous devons faire. Nous devons être aussi à la politique internationale.
Oui, Christian, vous félicitez le gouvernement, pourquoi?
Bon, je les félicite parce que les Américains, ce sont des leaders, ça veut dire qu'ils sont des meilleurs, les meilleurs à financer dans la politique, même dans les armées, même à la police, dans tous les domaines politiques, les Américains, ils sont vraiment honnêtes.
Ah oui?
Ici, dans notre pays, nous, la population congolaise, nous devons être aussi donner notre gouvernement les idées. Parce que les Américains, ce sont des mercenaires. On les connaît depuis beaucoup d'années. Ils sont venus ici dans notre pays. Ils doivent il doit commencer à aimer notre mère, notre petite fille ici. Et leurs enfants aussi, ils doivent être des Congolais. Mais après 10 ans, les journalistes, les Américains, après 10 ans, 20 ans, les Américains, ils doivent postuler aussi dans notre pays.
Oh là là. Merci beaucoup, Christian. D'accord, merci. On va donner la parole à Brunel Ndombe depuis Bandundouville. Bonjour, Brunel. Brunel Ndombe, merci
d'ouvrir le micro.
Oui.
Merci vraiment pour le sujet.
Qu'est-ce que vous avez à dire?
Merci beaucoup. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays démocratique. Où notre gouvernement doit être sincère avec le peuple. Ils ont signé les accords le 4 décembre 2025 avec les États-Unis, les accords de paix, mais l'intégralité de ces accords n'était pas publiée. Le peuple congolais souffre aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui a été dit dans ces accords-là. Nous avons suivi plusieurs fois le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui nous expliquait autour des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation, bien sûr, des États-Unis. Mais nulle part, le ministre de la Communication nous a dit que la République démocratique du Congo avait encore un autre accord pour accueillir, bien sûr, l'immigrant des tiers pays. On se pose la question, est-ce que le Congo est un pays des tiers monde? Où le Congo est quel genre de pays? Nous savons très bien que, selon le gouvernement, c'est un engagement de solidarité internationale et le respect de la souveraineté. Ce qu'on ne sait pas en date exacte du programme nécessaire. Le mécanisme d'hébergement, le mécanisme de suivi, de coordination avec les pays d'origine. La RDC devient aujourd'hui un pays transit, payé par les États-Unis. La population congolaise, le peuple congolais ont droit bien sûr à connaître la réalité de ces accords-là. Parce que aujourd'hui, nous avons des milliers de déplacés. Prenons par exemple ici à Bandundouville. Nous avons combien de déplacés victimes du conflit Mobondo qui sont ici sans une aide humanitaire. Ils souffrent actuellement. Et le gouvernement est capable de fois d'envoyer de l'aide à ces déplacés qui sont dans une situation de précarité vraiment très avancée. Alors aujourd'hui, nous avons encore le 15 et encore un autre lot qui viendra. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est-il capable de nous dire au total, il y a combien bien sûr de migrants qui seront ici? Ils sont de quel pays? Nous savons très bien que quand les États-Unis expulsent bien sûr les gens qui sont dans la situation d'une inégalité, bien sûr.
D'irrégularité.
Ce sont des gens, des fois, qui sont habitués aux drogues, ce sont des récalcitrants, ainsi de suite. Mais quand on nous envoie ces gens ici, ils vont former bien sûr leur communauté. Et quand ils vont former leur communauté, ils vont commencer maintenant à chercher comment survivre dans ces pays. Donc, même jusqu'à la preuve du contraire, on ne dit pas dans quel endroit où on va loger, bien sûr, ces gens-là. On ne sait pas. On en sait les États-Unis, le trésor public congolais ne va sortir aucun rond pour... Ça fait vraiment mal, nous, la population congolaise, parce qu'on se pose beaucoup de questions autour de cette situation. Le ministre de la Communication ne parle que de ces Français. Le gouvernement avec Mme Judith Suminwa... ne nous dit pas clairement il s'agit de quoi. Le ministre des Affaires étrangères également, dont on nous embrouille la situation pour nous dire que non, vous voyez que la République démocratique du Congo ne va rien supporter, il n'y aura pas de dépenses dans la trésorerie publique. Nous voulons assez que dans cette situation, ils n'ont même pas demandé, bien sûr, même le débat au niveau de l'Assemblée. Il faut que le député qui sont dans le lit arrive bien sûr à nous éclaircir autour de la situation. Mais le député eux-mêmes aussi ne connaissent absolument rien. Le gouvernement chose selon sa volonté, sans pour autant demander même l'Assemblée, même le Sénat, dans un pays qui est démocratique, que la redevabilité doit être au centre de tout.
Merci. On va donner la parole à Blaise Saïdi Atoubou depuis Kisangani. Blaise Atoubou, bonjour. Merci d'activer votre micro, Blaise. Bonjour. Bien, nous parlons de l'arrivée à Kinshasa des migrants expulsés des USA. Le premier lot est constitué de 15 personnes. Il y a encore d'autres personnes qui arrivent. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour. Voilà, il n'est pas toujours, il n'a pas toujours activé son micro. Henri-Christian Longenja.
Ouais, merci, Jody. Je pense que d'abord, j'ai rien lorsque les compatriotes de l'Est là de féliciter le gouvernement, mais vous avez vite compris que il n'y avait pas d'argument pour prouver ces félicitations. L'hospitalité, je pense que nos compatriotes à l'Est sont aujourd'hui victimes de notre hospitalité. C'est lorsqu'on a réussi à se déplacer et qu'aujourd'hui ça nous coûte ce que ça nous coûte. Alors, donc, lorsqu'on est blessé une fois, on ne peut pas être accepté, on ne peut pas accepter d'être blessé encore une deuxième fois, troisième fois. Ça doit donner une sagesse. On ne refuse pas. Nous sommes un pays hospitalier, mais nous accueillons qui? Nous accueillons ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. C'est de par leur propre volonté, ils disent, je quitte Pérou, je vais au Congo. Et ils remplissent ces formalités, et le Congo l'accepte et ils s'installent. On les connaît. Ou soit, lorsqu'ils étaient en train de fouiller là, moi je vais immigrer au Congo. Et ils viennent. Et c'est ça l'hospitalité. Mais l'hospitalité cédée où quelqu'un n'a pas choisi le Congo et que vous l'imposez au Congo comme un pays transit et qu'on ne sait même pas ils vont aller où, est-ce qu'ils vont rentrer au Pérou, ils vont rentrer dans leur pays. Alors s'ils vont rentrer dans leur pays, est-ce que la RDC qui se jette maintenant dans le dossier a déjà commencé à entamer des échanges avec leur pays d'accueil définitif ou dans leur pays d'origine? On ne sait pas. Donc, nous estimons que la solidarité ne peut pas être à la base de sa propre destruction. Je peux bien vous accueillir, mais si je pense que mon accueil va tourner contre moi, ça sera contre-productif, contre moi, je ne peux pas. Le Congo, c'est un pays où nous prenons toujours le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble avec ceux qui veulent vivre avec nous. Mais pas avec les gens téléchargés qu'on les impose malgré eux et qui demain vont constituer un danger. Mais le vivre ensemble, c'est une valeur congolaise et que même nous, la société civile, nous encourageons le vivre ensemble, mais pas de cette manière-là. Alors, lorsque même le gouvernement dit qu'il ne va pas dépenser, qu'on ne trompe pas la population. Prenez seulement les carburants des bus qui les a transportés de l'aéroport jusqu'au lieu de résidence. Ces carburants-là ne viennent pas des États-Unis. C'est l'argent sorti du trésor pour acheter ne serait-ce que les carburants. De l'eau qu'ils utilisent là-bas pour se laver, la régie des eaux produit. Mais si le gouvernement, qui a d'ailleurs autant de dettes de la régie des eaux, mais il va encore encaisser d'autres dettes. Tout ça, c'est le trésor auquel, qu'on le veuille ou pas, le trésor va toujours saigner quelque
Bien,
part.
Merci
L'électricité
beaucoup.
Qu'ils utilisent.
Oui,
donc,
merci,
on ne nous trompe pas que non, le gouvernement ne va pas dépenser.
D'accord.
Le gouvernement dépense de l'une ou de l'autre manière.
Henri,
mais
merci.
Ce qui est plus important,
oui.
Qu'on communique bien, qu'on nous informe bien. Nous sommes un peu hospitaliers, bien sûr.
Merci, Henri-Christian.
On
a besoin d'être informés. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du Collectif 24, une structure qui milite pour le droit d'accès à l'information. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.